Et puis finalement, le judaïsme français a trouvé une expression qui est tout aussi fausse. L'initiation religieuse. Les initiations religieuses. L'initiation religieuse se fait avant d'avoir mitzvah. C'est avant qu'on est en initiation. Et au moment de l'avoir mitzvah, on est soumis à obligation. Vous voyez que même le terme est faux. Vous comprenez? Non, là, vous comprenez bien que un juif traduit en français, c'est un juif traduit. Alors, revenons donc en français à notre problème. Et qui peut expliquer pourquoi le fait de lire la paracha du Kriyat Shema avant le temps, eh bien, c'est une bonne action, si vous voulez, c'est une action pieuse, mais de l'Oïfside. Et là, que Koreva Torah. Il n'a rien, il n'a pas perdu de mérite, mais c'est le mérite d'avoir lu dans la Torah, c'est pas le mérite d'avoir accompli l'obligation du Kriyat Shema. C'est clair? Pourquoi dans ce cas, c'est le temps qui fait que ce que je dis, Ishma, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad, à force de loi, à force de commandement, pardon, mais avant, non. Simplement, c'est un verset qui m'apprend quelque chose. Vous voyez que la cria est différente si c'est Zman Amikra ou pas Zman Amikra. C'est clair? Qui pourrait dire pour ça? Là, l'exemple est simple, vous ne vous rappelez pas? Parlez plus fort. Comment? J'entends pas. C'est le temps de la non-évidence. Lorsque nous sommes familiers, la familiarité se fait prendre pour l'évidence souvent. Lorsqu'on est familier avec une donnée, on a souvent tendance à prendre la question pour la réponse. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on a tendance à répéter la question, on croit que c'est la réponse. Non, là, vous avez expliqué la question. Vous voyez? Nos maîtres nous disent il y a une chokhma des questions et une chokhma des réponses. Ce sont deux chokhma différentes. Shelot ou tshuvot. Et là, il y a la chokhma de la shela et la chokhma de la tshuva. Ça, c'est encore un autre sens, la chokhma de la tshuva. Bien. Qui peut expliquer?
Alors, on va faire un petit schéma au tableau.
Voilà, je marquerai, si vous voulez, le temps comme cela, puisque nous sommes au niveau du calendrier hébraïque, de droite à gauche. Et alors, ça c'est le temps du jour. Et voilà que le jour s'achève au coucher du soleil. Puis il y a le temps du crépuscule, l'apparition des étoiles, et il y a donc ce chevauchement de jour qui est complètement, évidemment complètement achevé à l'apparition des étoiles, nous verrons pourquoi, et la nuit qui commence dès le coucher du soleil. Là, il y a le chevauchement de Ben Hashmash. Bien. Et alors, ce que la Torah nous demande, tant le soir que le matin, mais je vais prendre l'exemple du soir, c'est que c'est précisément au moment du temps de passage entre le temps du jour et le temps de nuit que nous devons affirmer Dieu est un. Pourquoi? Là, nous allons récupérer un peu de vos évidences tout à l'heure, mais en les organisant peut-être de façon plus globale.
Parce que c'est comme Maasé Bereshit, à ce moment-là, il produit un phénomène.
Lequel? C'est ça que je demande.
Justement, l'évidence,
c'est la création du monde.
Ah, l'évidence, voilà. C'est la dualité. Alors là, il y a un mot important. Alors, explique. Qu'est-ce que tu veux dire en disant dualité?
Le doute de croire que l'un et l'autre, ça n'a pas de rapport.
Comment?
Il y a une vérité du jour et une vérité de la nuit.
Très bien. Voilà, nous sommes en plein dans la réponse. C'est-à-dire, la raison pour laquelle la Torah nous demande de réaliser cette mitzvah de la proclamation de l'unité de Dieu, c'est pour lutter contre une apparence. Et c'est cette apparence contre laquelle va lutter cette mitzvah qui est l'évidence naturelle. Le monde dans lequel nous nous trouvons suggère une dualité. C'est pour lutter contre cette apparence de dualité qu'intervient cette mitzvah d'affirmation de l'unité. C'est clair ? Il y a un passage de la Gemara qui compare la mitzvah de Kriyat Shema à une arme, à une épée qui a deux fils. Cheret Pifiyot, une épée à deux tranchants. Les mitzvot sont des armes. Mais si on ne comprend pas contre quoi elles luttent, alors on ne comprend pas leur importance. Or, on a oublié contre quoi la mitzvah vient lutter, alors on ne voit plus l'importance de la mitzvah. Est-ce que c'est clair ? Pourquoi ? Parce qu'on a intégré de façon purement intellectuelle cette évidence rationnelle, entre guillemets, que si Dieu est, il est un. Mais ça, c'est le résultat de notre éducation. L'apparence naturelle du monde est contre. Nous vivons dans un monde où tout suggère la dualité. Et alors, c'est précisément lorsque le danger apparaît, dans l'expérience, que la mitzvah prend force de loi. Vous avez retrouvé un peu les différents éléments que vous avez cités. C'est-à-dire, dans le monde du jour, le problème n'est pas encore posé. Le monde du jour est un monde cohérent. Ce n'est que parce que je sais qu'il y a aussi la nuit que le problème se pose. Mais ce n'est pas au niveau des idées, ici, que ces mitzvot jouent. C'est au niveau des comportements psychiques concrets, de l'expérience de la dualité. Cette expérience de la dualité, elle est autant de passages. Ce moment naturel du crépuscule, on découvre une autre vulnérabilité. Il m'impose la suggestion de la dualité. Combien de dieux y aurait-il ? Celui du jour et celui de la nuit, celui du bien et celui du mal, etc. Tout dans le monde suggère ce qu'on appelle en hébreu les shterashuyot, les deux souverainetés. Nous sommes dans un monde duel et nous sommes fabriqués ainsi. Nous avons deux cerveaux, de l'homme, okay, le droit, deux cœurs, etc. Et nous sommes donnés en duel. Il y a le cas exceptionnel de la ligne médiane dans les organes du corps, la langue. Une en haut, une en bas. Mais là, il y a unité. Mais tout le reste est au duel. Okay? Les yeux, les oreilles, les narines, les mains, les pieds. Vous voyez à peu près ce problème. C'est un problème extrêmement important. De savoir que nous sommes situés... Pourquoi c'est pas fermé ? Ça s'appelle Eber Minahai. On prend un être vivant et on prend des petits morceaux. La Torah se met pas en morceaux. Bon, enfin, je reviens au problème. Qu'est-ce que je dis ? Oui. C'est-à-dire que la structure du monde dans lequel nous sommes insérés est une structure duelle. Le dualisme, c'est la religion naturelle. Lorsque l'homme est livré à ses propres forces de l'expérience du monde naturel, il ne peut qu'être dualiste. C'est-à-dire, il a fallu la révélation prophétique pour que l'évidence de l'unité vienne lutter contre l'expérience de la religion naturelle. Est-ce que c'est bien clair ? Il est normal que l'égoïme ne soit pas monothéiste, parce que l'évidence du monothéiste n'est pas une évidence naturelle. Elle résulte d'une expérience historique de la révélation prophétique. C'est parce qu'une voix s'est fait entendre au Sinaï pour dire « Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad » que nous savons que c'est vrai. Sinon, ça resterait hypothèse battue, contrebattue, je ne sais pas comment dire en français, par toute l'expérience du monde. Est-ce que c'est suffisamment clair ? Ne tombons pas dans ce piège. C'est aussi une question de méthode, de croire que le principe du monothéisme est un principe évident. C'est les ma'alam et asekhel, c'est au-delà de la raison. La raison nous montre un monde en duel.
C'est pourquoi il y a eu Korah.
Attends une minute. C'est un autre verset, oui.
Est-ce que les hommes...
Attendez, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, mais je veux d'abord en retirer l'essentiel dans un autre sujet. Une chose très importante. La sainteté, c'est précisément l'expérience de l'unité des valeurs. Chaque valeur est une valeur. Le bien, le beau, le vrai, etc. Mais lorsque toutes les valeurs sont ensemble, unies, alors la sainteté apparaît. C'est pourquoi, et c'est un grand enseignement de Ben Amozek, je ne sais pas si vous avez l'édition complète de Israël et l'humanité. Dans les librairies, il y a une édition un peu anthologie, okay, comment on dit, un résumé, mais un digeste. Mais dans la première édition d'Israël et l'humanité, il y a une grande préface où un enseignement de Ben Amozek a été cité, ceci. Toutes les valeurs, on peut les trouver chez l'égoïste. Un peu comme un collier dont le fil se serait cassé, il y a des perles partout. Mais la sainteté ne se trouve qu'en Israël. Parce qu'en Israël seulement, il y a l'exigence de l'unité des valeurs. Est-ce que c'est clair? Et d'ailleurs, les goyim ont une sorte de, par division du travail au sein de l'humanité, de spécialité. Telle société est spécialiste de telle ou telle valeur. Alors de temps en temps, on voyage chez elle pour s'initier à cette mumchiut, comment on dit ça, cette capacité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ce qui caractérise Israël, c'est la capacité de l'unité des valeurs. Là apparaît l'Akdusha, et Kedosh Israël. Et lorsque les Goïms emploient le mot de saint, ça a un tout autre sens. C'est dérivé d'une toute autre expérience, de l'expérience du sacré. D'ailleurs, une catégorie très païenne, le sacré. Bien entendu, l'hébreu sait la désigner, mais il l'a rejeté. J'ai oublié comment on dit en français, le noumen. Noumen en grec. Comment on dit ça en français?
Noumen. Le numideux.
Non, pas le noumen de Caen.
Le numideux.
Le numineux. Très bien. Le numineux. Eh bien, il y a là une expérience de la religion naturelle païenne. Le sacré, ça n'a rien à voir avec la sainteté. C'est tout à fait autre chose. Okay. Vous voyez, votre question, de nouveau, nous ramène à ce point de méthode. Et d'ailleurs, ces séminaires sont faits un peu pour cela. De vous mettre en garde contre l'à peu près des langues que nous employons pour traiter des contenus hébraïques. Nous verrons que c'est d'ailleurs le sujet du Kriyat Shema qui doit être dans sa langue, selon Rabbi Yehuda. Et on peut traiter de l'hébreu qu'en hébreu, en fait. Mais ça, c'est le problème du Lachon HaKodesh, qu'on va aborder d'ailleurs dans deux ou trois cours, et qui est important pour lui-même. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Attendez, lui, j'ai pas fini avec madame, la question de madame. En réalité, vous avez cité le verset un peu approximatif. Kedoshim tihyu ki kadoshani Hashem Elokechem. Vous avez oublié la fin du verset. Soyez saints, vous serez saints parce que je suis saint, moi Hachem, votre Dieu. Alors, la première implication de la lecture est très importante. Et de la même manière que je suis saint en tant que Dieu, soyez saints en tant qu'homme. Est-ce que c'est clair? Le Sifré qui est cité. Oui, oui, c'est ce que j'arrive. D'essence. Okay. Et après, j'aborderai la deuxième question de votre question. Mais d'abord, pour éclairer cela, le Sifre que cite Rashi, le Midrash, dit ceci, « Kedushati le ma'alam et kedushatre » C'est ce qu'indique la fin du verset. « Ani Hashem Elokechem » Ne croyez pas que vous allez être saint comme moi. Vous voyez, c'est clair? Ça, c'est déjà la confusion des substances. Il y a un approfondissement à travers d'autres versets que l'on voit, en particulier Maïmonide a indiqué, qui est très important. Plus l'homme dit le verset. Plus l'homme s'élève en sainteté, plus il ajoute à la sainteté de Dieu, parce que dans tous les cas, Dieu est plus haut. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire, plus l'homme gravit l'échelle de sainteté, et plus Dieu gravit l'échelle de sainteté.
Plus il avance en sainteté, plus il s'éloigne de la sainteté de Dieu.
L'inverse. C'est-à-dire qu'il y a une relation d'authenticité entre l'homme authentique et le Dieu authentique. Plus l'homme est authentique et plus cette relation est haute. Est-ce que c'est clair? Mais il y a une relation de, comment dire ça en français, de solution de continuité. Je vais vous l'éclairer par un enseignement qui était donné à propos de Moïse, que j'ai cité une fois à un séminaire, je pense ici aussi. est très important. C'est dans le Midrash et les autres Avraha, à partir de l'expression qui concerne Moïse. L'expression est la suivante. Moïse est appelé Isha Elohim. Isha Elohim, homme de Dieu. Le Midrash Rabba sur Vezot Abraha, à la dernière paracha de la Torah, donne l'explication suivante. Voilà ce que dit le Midrash. Pour comprendre Isha Elohim, l'homme de Dieu, il faut comprendre de la manière suivante. Chetio ulmala Elohim, sa moitié supérieure Dieu, Chetio ulmata Adam, sa moitié inférieure homme. Et là, c'est une notion explosive. Qu'est-ce que ça vient faire dans le Midrash juif ? Homme-Dieu. Ça veut dire Chetio ulmala Elohim, Chetio ulmata Adam. Voilà ce que le Midrash nous fait dire de Moïse. Qu'il était dans sa moitié supérieure Dieu, dans sa moitié inférieure, homme. D'un midrash incompréhensible. Si ça se trouvait dans les pensées de Pascal, on comprendrait. Ça, c'est à eux. Mais dans le midrash, qu'est-ce que ça vient faire? Alors, nous allons lire, sans changer ni les mots, ni l'ordre des mots, mais en déplaçant la virgule. La virgule. J'ai lu « Chetiol marla Elohim »« Chetiol mata Adam » Je vais lire maintenant, comme c'est écrit. Chetio ulmala Elohim, Chetio ulmata Adam. Ça veut dire que Moïse est situé de la manière suivante. Sa moitié est plus haut, il y a Dieu. Sa moitié est plus bas, il y a l'homme. C'est clair ? Vous avez été compris ? Chetio ulmala Elohim, Chetio ulmata Adam. Vous voyez la différence ? Ça n'a plus rien à voir. Et là, c'est Judas Lévi qui éclaire cette notion. Judas Lévi, dans un des chapitres du Kuzari, il dit ceci. C'est un des grands objets de la discussion entre le roi des Khazars et le Mahaver, enfin le Haver du livre, le rabbin qui est mis en jeu dans le livre du Kuzari, pour faire comprendre au roi des Khazars qu'est-ce que la Bible veut dire très exactement, ce qu'on traduit très mal en disant que l'homme est créé à l'image de Dieu, Betzelem Elohim, et que ça c'est vrai pour Israël. Et Judas Lévi emploie une catégorie très importante, qui ferait l'objet d'un séminaire Shalem pour lui-même, le Inyana Elohim. Ça me permettra d'ailleurs d'ouvrir une petite parenthèse tout à l'heure sur l'erreur de la théologie chrétienne à ce sujet. Il sera de comprendre en quoi il croit. Voilà donc la thèse du Kuzari. Il y a un cas particulier dans l'histoire de l'humanité de l'émergence du dedans de l'identité humaine, de cette identité qui correspond au projet du Créateur. Elle est en histoire, elle est en projet, mais elle est dirigée vers ce projet. C'est là, il y en a d'autres. Et alors, pour faire comprendre cela au roi des Khazars, il a posé la question suivante. Combien y a-t-il de règnes, de niveaux d'être ? Une expression que Mme Amadou Valensi a employée dans un cellule, les niveaux d'être. Il y a d'abord le règne minéral, qu'on appelle en hébreu le domaine, l'inerte. Ensuite, le règne végétal, qu'on appelle le tzoméach. Ensuite, le règne biologique, vivant, qu'on appelle le Hay, et puis l'homme, qui est le Hayandaber. Quatre règnes, okay? Domem, Tzomeach, Hay, Hayandaber. Le vivant parlant, c'est-à-dire l'homme. Bon, c'est un sujet pour lui-même. Quelle est la catégorie de critères qu'il y a là? C'est la parole. Mais comme on dit l'inerte en hébreu, Domem, ça veut dire le silencieux, Domem. Tzomeach, c'est déjà le bruissement de Sicha, Siyah, vous voyez? C'est les mêmes termes en hébreu, la végétation et le murmure. Ça commence à parler, si vous voulez. Salomon savait écouter ce que disent les plantes. Vous savez. Et enfin, vous savez que Salomon savait. Et puis, Hay, le vivant, et le vivant devrait parler. Le problème, c'est pas l'ânesse de Bilam, c'est toutes les autres ânesses. Pourquoi elles ne font pas? Est-ce que c'est clair? Et puis, puisque le vivant, seul l'homme est ce vivant qui parle. Et alors le Kuzari pose la question, Judalevi pose la question au roi des Khazars à travers son livre, il dit, est-ce qu'il y a un niveau supérieur? Il dit, oui, il y a un niveau supérieur, c'est les grands hachamim, les grands sages. Il dit, non, je ne te demande pas une nuance du niveau homme. Je te demande un niveau supérieur aussi différent en nature que les quatre premiers entre eux. Ah, il n'y a pas. Ce serait quelque chose de divin, angélique. Okay? C'est les termes qu'on prend le coup d'œil. Divin, c'est ça Israël. C'est le niveau du prophète. C'est-à-dire non seulement vivant parlant, mais vivant vraiment parlant vraiment. Est-ce que c'est clair? Oui. Alors vous voyez comment l'exemple du vivant vraiment parlant vraiment, ça c'est Moïse, qui est plus haut que l'homme, mais plus bas que Dieu. Alors vous voyez, dans quelle grossière erreur sont tombés les païens lorsqu'ils ont voulu lire ces choses-là à leur manière. Hein? La confusion des substances de l'homme-Dieu. Alors qu'il y a un degré qui est plus haut que l'homme, qui est le prophète, c'est l'homme devenu authentique, kadosh. Hein? Vous voyez votre question? Mais c'est au-delà qu'est l'essence et la sainteté de Dieu lui-même. J'y arrive. Je ne suis pas arrivé à votre deuxième question, je suis toujours dans la première. Okay? Pour simplement repréciser le verset que vous avez cité. Kedoshim, Tiyu, Kikadosh, Ani, Hashem, Elokechem, ça veut dire Kedoshati, le Marlam, et Kedoshatrem. N'oubliez pas la fin du verset. Bon. Et j'ouvre une petite parenthèse. Au fond, c'est en cela que les chrétiens croient, mais ils n'ont pas l'honnêteté de le dire. Vous savez en quoi ils croient? Ils croient qu'il y a une identité humaine qui est le véhicule du Ein Eloki. Ils croient qu'il y a une identité humaine qui est l'identité humaine authentique telle que Dieu avait voulu la créer et que c'est ça l'identité juive. C'est clair? Seulement ils le disent à la manière des païens. Ils disent que les juifs, c'est des hommes dieux. Est-ce que c'est clair? Oui, la malhonnêteté des chrétiens. Parce qu'ils disent Dieu s'est fait homme. Mais c'est pas en ça qu'ils croient. Qu'est-ce qu'ils devraient dire? Ils devraient dire Dieu s'est fait juif. Mais ça, ils sont anti-juifs, ils ne le disent pas. Parce qu'en réalité, c'est en ça qu'ils croient, que Dieu s'est fait juif. Oui. Alors quand ils disent Dieu s'est fait homme, il y a l'antisémitisme là-dedans. Bon, mais essayons de décrypter leur croyance. En quoi ils croient? En ce qu'a expliqué Judas Lévi. Est-ce que c'est clair? Que le Einyan HaElokhi est en Israël. Que la révélation passe par Israël. Qu'Israël a la capacité prophétique. Vivant vraiment, parlant vraiment. C'est ça qu'ils veulent dire. Mais ils le disent à la manière des païens. Est-ce que c'est clair?
Logique avec eux-mêmes quand ils ne veulent pas reconnaître Jérusalem. Alors,
ah, bien sûr, bien sûr. J'avais cité une fois cette formule, je la répète parce qu'elle me semble bien suggestive. La position du christianisme est très claire. Ton Dieu, mais pas toi. Ton livre, mais pas toi. Ta ville, mais pas toi. Toi, mais pas toi. C'est l'antisémitisme incarné. C'est ça leur incarnation. Bien. Alors, en tout cas, refermons cette parenthèse. J'aborde la deuxième question de votre question. Est-ce que vous voulez, il est midi moins quelque chose, est-ce que vous voulez, après qu'on aurait fini, 5 minutes de... Demandez-moi si moi je veux. Alors on prendra quand même 5 minutes. Parce que... Ken?
Je
Non, non, attendez, attendez.
La sainteté de Dieu et toujours
l'infériorité
de l'homme.
Oui. Mais pourquoi vous appelez ça infériorité?
Puisque c'est à la grandeur de Dieu, puisque tout homme grandit en sainteté, la sainteté de Dieu augmente.
Là. Vous comprenez ce que je dis? C'est un petit homme qui dévoile la sainteté de Dieu, c'est un petit Dieu. C'est-à-dire, plus l'homme est haut, plus la réputation de son Dieu est grande. C'est clair? Parce qu'il y a une relation. C'est cette relation qui change. Mais là, la manière dont vous avez formulé votre question était pessimiste. C'est le problème de la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide. Les pessimistes disent qu'elle est à moitié vide, les optimistes disent qu'elle est à moitié pleine. Vous comprenez ce que je veux dire? Et qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la prétention sous-jacente? Que l'homme est inférieur à Asma, que l'homme est inférieur à Dieu. Vous comprenez?
Parce que moi, je
Il y a une prétention subreptice dans ce que vous dites.
Dieu a dit à l'homme, puisque je suis saint, soyez saint. Quand vous m'avez dit, essayez d'être saint.
Non, je n'ai pas dit ça. Alors il aurait fallu enregistrer, mais je n'ai pas dit ça. Regardez ce que j'ai dit. Vas-y. J'introduirai, si vous voulez, la catégorie d'authenticité. À la place de sainteté, mais vous allez faire l'analogie. Dieu dit à Israël, je suis un Dieu authentique, soyez des hommes authentiques. Je suis saint en tant que Dieu, soyez saint en tant qu'homme. Mais n'oubliez pas, ma sainteté reste supérieure à la vôtre. Bon, alors qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Qu'est-ce qui vous gêne? Répondez. Qu'est-ce qui vous gêne?
La distance qui reste et qui s'accroît.
Oui, oui. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Hein?
Ça ne vous gêne pas.
Ah bon? Vous aviez l'air d'être gêné, non?
On n'arrivera jamais.
Écoutez, je vais vous citer le dernier enseignement de la Massagette de Droit. Certains d'entre vous connaissent déjà, ensuite on prend une guitare chacun. Dit ceci. Tzadikim, en la menucha, loba alamazé, veloba alamaba. Vous connaissez ça? Les justes n'ont de repos, ni dans ce monde-ci, ni dans le monde à venir. Donc, ça a l'air un petit peu difficile. Et il y a un verset qui est cité, Sheneemar, Yelechou, Mechaïl el-Chaïm, Yerael el-Okim et Tzim. Donc, voilà l'explication que je vous proposerai. Que les justes n'aient pas de repos dans ce monde-ci, on comprend. Est-ce que c'est clair?
Oui.
Menucha. Sauf le Shabbat, qu'on appelle Me'en Olam Haba. C'est le monde à venir dans ce monde-ci, on peut se reposer. Mais dans ce monde-ci, il n'y a pas de repos. Et est-ce que c'est clair?
Non.
Mais dans le monde à venir, pourquoi? En réalité, ce n'est pas une punition, c'est la récompense. La récompense qu'ils sont juste dans ce monde-ci, c'est qu'ils n'auront pas de repos dans le monde à venir. Parce que, je schématise un peu, ce monde-ci, nous avons été appelés des destinées du néant aux destinées de la matière. Le monde à venir, nous sommes appelés des destinées de la matière aux destinées de l'esprit. Mais le repos de l'esprit, c'est l'ennui. Où est la récompense? La récompense qu'ils n'ont pas eu de repos dans ce monde-ci, c'est qu'ils n'auront pas de repos dans le monde à venir. Pourquoi? Parce que le repos dans le monde à venir, ça s'arrête quelque part, alors on s'ennuie. C'est ça, il y a des degrés à monter. C'est en sof, il n'y a pas de fin. C'est ça la récompense. C'est clair? Bon. Ceux qui sont arrivés quelque part, satisfaits, dans le sens grossier du terme. Oui, un homme satisfait, c'est grossier. Oui, il est tout de suite un porc. Va, repu, satisfait. Un goy. Va, installé. Va. J'ai dit un goy, je n'ai pas dit monsieur un tel. Et vous voyez ce que ça peut être. Va. Épouvantable. C'est affreux. Quelqu'un de... vous voyez ce que je veux dire? Alors, la récompense, c'est... Et vous avez remarqué que les juifs sont agités? Dès qu'ils arrivent quelque part, il faut que ça marche. Okay? Et alors, ils ne laissent pas le goyim tranquille. C'est une des raisons de l'antisémitisme. On ne les laisse pas dormir. Allez, avance. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Alors, si vous voulez, nous allons faire une petite hafsaka. Et quand même... Kavana, qui va nous occuper dans cette discussion et nous reprendrons la discussion donc demain. Bon, nous allons d'abord apprendre les différents sens du terme humain. Et quel est le premier sens le plus général de l'écharven?
Diriger.
Donner une direction. Quel est le substantif qui correspond à ce sens de l'Echaven? Kivun.
Kivun.
Donc, Kivun, c'est pas Kavana. Mais quand même, Kavana a premièrement le sens de Kivun. Le substantif Kivun veut dire la direction. Mais aussi, c'est pas simplement la direction dans le sens géographique, c'est lorsque un comportement a une direction, a un Kivun. Alors, tout de suite, nous abordons en français le terme de intentionnalité. Attendez, est-ce qu'il y a un T ou un S? Un T, ok. Intention. Alors, Kavana, premier sens, c'est intention. Un deuxième sens, je passe tout de suite à une autre polarité qui est très connue, c'est ferveur. Et c'est un sens important, indéniable, mais très dérivé. Agir avec kavana, lorsque on traduit agir avec ferveur, c'est surtout à la mode depuis, si vous voulez, la vulgarisation du racidisme. On parle de la kavana, la ferveur, mais c'est très dérivé. Nous verrons que c'est une attitude qui découle naturellement du premier sens. C'est-à-dire, lorsque je réalise un comportement avec le sens, la direction, l'intention qu'il doit avoir, inévitablement l'authenticité me mène à agir avec ferveur. Vous comprenez ? Mais la ferveur est une sorte de contexte affectif, si j'ose dire, qui s'ajoute à la kavana premier sens, qui consiste très très exactement et très fondamentalement à agir un comportement avec le sens qu'il a, avec l'intention qu'il a. Alors, je vous propose un certain nombre de termes en français qui montrent la gradation de ces différents sens de kavana. C'est premièrement agir avec attention. C'est-à-dire tout simplement faire attention à ce que l'on fait, être à ce que l'on fait. C'est ça, être l'onit asek. Pas agir machinalement, mais être attentif à donner à ce que l'on fait. C'est le premier sens de kavana. Par exemple, si lorsque je dis un mot, une phrase, et je ne suis pas à ce que je dis, je n'ai rien dit, j'ai fait du bruit avec la bouche. Mais il y a des comportements qui n'existent vraiment que s'il y a kavana. Est-ce que c'est clair? Dans le sens de faire attention à ce que l'on fait. Vous voyez que le sens de kavana ferveur est important, mais c'est une sorte, si vous voulez, d'harmonie du son fondamental, comme on dirait en musique. Et je ne sais pas, vous connaissez ce thème, des harmoniques qui sont impliquées par une mélodie fondamentale, c'est l'harmonique affective. Mais il y a d'abord un comportement psychologique, psychique, d'être attentif à ce que l'on fait. Deuxièmement, et c'est très important, il y a un contenu intellectuel de l'intention. Je sais ce que je fais, je comprends ce que je fais. Je le fais dans le sens que cela a. Et c'est très difficile. Mais nous sommes plus dans le comportement par rapport à la loi. Nous sommes plus souvent dans le cas du soldat qui accomplit une discipline que dans celui de l'état-major qui sait pourquoi il demande ça. Vous comprenez ce que je dis? Mais il y a en nous, et l'état-major, et ça me met plus ou moins inconscient. Donc il y a aussi le terme de tension qui va apparaître là. Et c'est une sorte de charnière entre l'attention, l'intention et la ferveur. Parce que cette attention, qui est le minimum de kavana exigé, être à ce que l'on fait. Vous voyez pourquoi c'est important pour les rites véhiculés par la parole, parce que là, il faut comprendre ce qu'on dit. Alors, on va avoir un problème dans 2-3 cours, dans 2-3 lignes d'ailleurs, et ceux qui ne comprennent pas. Je vous pose tout de suite brutalement le problème. Quelqu'un qui lit sa prière, ici c'est le Kriyat Shema, mais prenons le cas de la prière, qui lit sa prière et ne comprend pas ce qu'il dit. Et qu'est-ce qu'il fait?
Le fait de lire.
Alors on dira que s'il ne fait pas de faute, c'est authentique. Mais je comprends bien qu'on est gêné par l'état des choses. On dira, et la règle est ainsi, on peut prier dans la langue qu'on comprend. Mais enfin quand même, si déjà quelqu'un veut prier, la prière juive, on peut comprendre que pendant tout le temps d'initiation, alors il priera dans la langue qu'il comprend. Enfin, la visée, c'est de prier la prière juive, en hébreu. Donc on prendra le cas normal. C'est quelqu'un qui prie en hébreu. Okay? Alors quelqu'un qui prie en hébreu, mais voilà, il ne comprend pas. Même ceux qui croient comprendre, savent qu'ils ne comprennent pas. Mais alors, la règle sera très, très précise. C'est ne pas faire de faute. C'est ça, au niveau de la halakha, c'est ça le minimum de kavana exigé. Si je fais une faute, j'ai dit autre chose. J'anticipe un peu pour cette question de comprendre ou pas comprendre. Un de mes maîtres me disait souvent à ce propos, toi tu comprends pas, mais ton âme comprend. Elle, elle est vue. Dans tous les cas, prie en hébreu. Ta neshama comprend. Même si toi tu comprends. Et donc on est à l'intérieur d'une cohérence bien précise. Et seulement, l'idéal, c'est que pas seulement ma neshama comprenne, que moi, je comprenne. Je me souviens d'une indication qu'avait donnée un jour Léon Algazi, Zichrono Livracha. Vous avez entendu parler de Léon Algazi ?
Monsieur de Coran.
Oui. Qui était un mitracha. Et il avait donné cet exemple en disant, avant de réussir une symphonie, il faut faire des gammes. Et alors, est-ce qu'il y a un mérite à faire des gammes ? Oui. Dans le fait de faire des gammes avant même d'arriver à la symphonie, il y a un mérite pour lui-même. Parce que c'est grâce aux gammes, si j'ose dire, qu'on arrive à la symphonie. Et quand on sera capable de la symphonie, toutes les gammes auront aussi leur sens. Toutes les gammes qu'on aura faites. Est-ce que c'est clair ? C'est, en hébreu d'ailleurs, il y a peut-être une coïncidence sémantique. Balbutier, ça se dit les gammes gem. Faire des gammes. Les gammes gem. Et donc voilà, c'est dans ce sens-là. Et nous sommes constamment à l'apprentissage. C'est peut-être ça la définition du Talmid Chacham, l'apprentissage. Et il y a des niveaux. À un certain moment, la symphonie est possible. Mais tant que je n'arrive pas à cette intususception du sens de ce que je fais, du comprendre ce que je dis, alors le niveau de mérite est dans cette tension de ferveur, mais cette exactitude de l'attention à ce que je veux. Vous voyez donc comme nous sommes gênés pour essayer d'analyser ce mot de Kavana dans le registre français, mais enfin, il y a suffisamment d'indications qui nous permettent de cerner un peu cette conduite de la Kavana. Et puis un deuxième sens radicalement différent de tout cela. Tout cela va ensemble. C'est la Kavana, encore une fois, attention, intention, tension, ferveur. Mais il y a un tout autre sens. C'est l'attitude de la volonté qui consiste à avoir conscience que le comportement que j'ai consiste à obéir à un commandement. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est un tout autre sens. Et ceci dit en hébreu, kavana, latzet, mide, prova. C'est-à-dire l'intention d'accomplir l'obligation.
D'être quitte.
C'est rare.
Latzet, l'état.
Ok, c'est rare. Latzet, ça veut dire l'intention d'avoir acquitté son devoir, accompli un devoir, d'avoir perçu obligation et d'avoir accompli ce comportement en tant qu'il est la réponse à une obligation. Oui, c'est un sens de kavana légal, le mot est précis, halachik, comme on dirait avec un barbarisme, hilchati, qui est tout à fait autre que le sens de kavana que je viens d'analyser précédemment. Nous verrons qu'il y a d'autres sens, nous verrons plus tard. Mais d'abord ces deux sens-là, le groupe, si vous voulez, de ces notions qui désignent le comportement de ferveur, mais vous avez vu tous les niveaux qu'il y a là. Et puis d'autre part, une toute autre catégorie de kavana, kavana la tzet, être sorti de l'emprise de l'obligation, littéralement, être sorti des mains de l'obligation, de la chova. Je voudrais analyser ceci. Il me semble qu'à un des séminaires, nous avons touché un peu ce point, mais une chose assez importante à comprendre en hébreu. Je prends les adjectifs. Comment dit-on quelqu'un qui est soumis à une obligation, qui est encore dans les mains de l'obligation, il ne s'en est pas délivré, il n'a pas accompli encore ce que l'obligation lui demande, on dit qu'il est chayav. Chayav, ça veut dire soumis à obligation. Mais en hébreu, chayav a un autre sens. C'est chayav. Ken, j'ai entendu ? Coupable. Alors, on ne se rend pas compte en français, c'est deux mots très différents. Soumis à obligation et coupable. Quel rapport ? En hébreu, c'est le même mot. Vous mettez ça. Coupable. et est obligé, dans le sens étymologique, obligé de, soumis à obligation. Prenons le mot opposé. Comment dit-on quelqu'un qui a acquitté son devoir? On dit qu'il est zakai. Mais zakai, en hébreu, ça veut dire aussi innocent. Alors réfléchissons, qui peut élucider cela? Et comment se fait-il qu'en hébreu nous ayons ce couple de notions, hayab, soumis à obligation coupable, zakai, ayant acquis un mérite et innocent? Quel rapport, Ken? J'ai pas entendu. Par une question? Syntaxe.
Il y en a un qui est un complément de je vous ai, il est encore en référence à quelque chose qu'il doit faire. L'autre est déjà un intransitif, il est rayable, donc je ne sais, il est coupable, il n'a pas fait
le moment. Attendez, les termes techniques nous gênent. Quelle est l'idée qu'il y a dans ce que vous dites?
L'idée, c'est que celui qui est rayable, au deuxième sens obligé, il est rayable de quelque chose. Rayable.
Deuxième sens, mais en quoi il est coupable?
Alors que l'autre est coupable d'avoir passé le temps de faire.
Mais c'est le même. Tant qu'il est khayab, il est à la fois soumis à obligation et coupable en hébreu. Je veux comprendre pourquoi. Là, on a avancé dans l'analyse. Tant que je n'ai pas quitté l'obligation, je suis coupable de quoi?
De ne pas être satisfait de l'avoir.
Ah, presque ça, justement. C'est-à-dire, tant que je suis soumis à obligation et que je n'ai pas encore acquitté mon devoir, je suis coupable de ne pas l'avoir encore fait. Pas comme vous avez dit exactement, c'était un peu trop formel, légaliste.
Ah oui, d'accord.
T'as compris? C'est une culpabilité innocente. Il y a une notion ainsi en hébreu. De culpabilité innocente. Quoi? Ça s'appelle la responsabilité. Vous voyez? Et alors, faites bien attention de distinguer entre la conduite de responsabilité et la conduite de culpabilité. C'est clair? Très souvent, des névroses se déclenchent lorsqu'on se trompe entre la conduite de responsabilité et celle de culpabilité. On croit qu'on est coupable alors qu'on n'est que responsable. Est-ce que c'est clair? Alors, de la même manière, celui qui a acquis son devoir, a acquis un mérite, que j'ai dit acquis son devoir, non, acquitté. Celui qui a acquitté son devoir a acquis un mérite, et il est donc innocent de cette culpabilité innocente de n'avoir pas encore eu à comprendre. Vous avez compris le problème? Là, il y a une thèse de Hegel sur la conscience malheureuse dans le judaïsme qui a été reprise par Jean Val. Je ne sais pas si vous voyez à quel genre de bibliothèque ça correspond. Et où là, il y a une erreur de Hegel qui dit, qui a analysé, qui a touché un peu ce problème, que comparer la conscience juive et la conscience chrétienne par rapport à la notion de faute, et il désigne que la conscience juive est une conscience malheureuse parce qu'elle se considère comme coupable de la loi. Alors que l'erreur est très grave, parce que Hegel ne savait pas l'hébreu. C'est la conduite de responsabilité, et non pas de culpabilité. Est-ce que c'est clair? C'est la raison pour laquelle, dans certaines Mishnayot, vous verrez ceux qui ont étudié peut-être Baba Kama, la Masoret Baba Kama, le Talmud de Jérusalem n'emploie pas dans certaines conditions Hayav, mais Chav. Chav. C'est-à-dire, Hova et non pas Chiyou. Ken? Ah. Bon, ça, nous aurons peut-être l'occasion un jour de l'étudier. C'est pour indiquer justement qu'il y a responsabilité, mais pas culpabilité. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est un mal dont souffre la jeunesse juive, en général, qui touche la jeunesse juive par nature, par générosité de nature. Il y a une tendance à l'universel dans l'identité juive qui fait que le juif prend sur lui des culpabilités innocentes parce qu'il n'arrive pas à distinguer entre ces deux niveaux. C'est très fin comme distinction, mais c'est très important. Énormément de juifs ont tendance à quitter la communauté juive parce qu'ils sont sensibles à ce qui se passe dans d'autres sociétés, mais en se considérant comme coupables. En prenant le parti de l'ennemi, par exemple, par souci de responsabilité vis-à-vis d'autrui, autrui étant l'ennemi. Mais ça se transforme en culpabilité. Et alors l'ennemi a raison. Ça, c'est la catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Et malheureusement, la jeunesse juive est gangrénée, pas seulement la jeunesse juive, il y a aussi des journalistes. Les, Ah, mais je vais lui faire un compliment, c'est quand même la jeunesse vue. Et une espèce de raté de la conscience. Vous comprenez? De transformer le sentiment de responsabilité en culpabilité, finalement, c'est de l'autodestruction. Et ça aboutit au suicide. À l'autosuicide. Et comme il ne se suicide pas, c'est qu'il y a une malhonnêteté quelque part. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il suicide les autres, ceux qui sont du côté des frontières. Bien, en tout cas, je referme la parenthèse. Je pense que vous avez compris clairement de quoi j'ai parlé obscurément. Eh bien, ce sont des problèmes importants. Vous voyez en quoi on ne peut réagir sainement sur les choses hébraïques qu'à travers les catégories hébraïques. Je pense que c'est clair. Alors, nous avons donc là une deuxième catégorie de Kavana. Kavana la Tzet. Est-ce que c'est clair? Alors, ça va nous permettre, dans ces cinq dernières minutes, si j'ose dire, de lire le premier enseignement de la Gemara à ce sujet. Nous reprendrons ça en détail. Avant la fin du cours, j'aurai quelques indications à vous donner encore. Okay, à vous répéter. Les mitzvot, c'est la Kavana la Tzet. Okay. Ça veut dire que j'accomplis ce que j'accomplis en tant que j'obéis à ce que la loi me demande. C'est ça la Kavana. C'est ça la Kavana légale, si j'ose dire. Okay. Attention à ne pas tomber dans le légalisme. Mais il y a une catégorie authentique de la forme du comportement. J'authentifie mon comportement en prenant conscience que j'accomplis une obligation. Même si je ne sais pas encore, j'ajoute encore, même si je ne sais pas ce que je fais, mais le fait que je sache que j'obéis à ce que la Torah demande, que j'accomplis l'obligation que la Torah demande, me donne un substitut de Kavana, qui est Kavana Latzet. La Kavana d'accomplir un devoir. Il y a toute une discussion de la Gemara qui consiste à, nous étudierons ça en détail demain, à se poser la question. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir Kavana Latzet pour avoir fait ce que l'on a fait? Par exemple, lorsque quelqu'un fait circoncire son fils, mais il vous dit clairement par mesure d'hygiène. Okay? Ça veut dire que ce n'est pas du tout avec Kavana Latzet. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est cachère? Si c'est fait cachère, c'est cachère. Voilà comment elle a l'air.